Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris 93.9. Claire Latsag au micro.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Allô, c'est bien.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2025, qu'elle soit placée sous le signe de l'écoute des autres et fasse frétiller vos oreilles. Ce soir, nous rencontrons Barthélémy Bellodi et Fanny Ramouni. Fanny, vous l'avez peut-être déjà entendue ici même en 2023 avec Pierre-Vincent Le Tourneau. Pour leur pièce, vous en avez entendu, vous, réalisée au sein du collectif Transmission. Aujourd'hui, elle est accompagnée de Barthélémy Bellodi. Ensemble, ils ont réalisé La Tour Vivante, une création sonore qui retranscrit l'expérience d'une ronde de nuit à l'intérieur des tours mercuriales. Le vent est ponant. Deux dames noires surplombent l'Est parisien. Deux géantes que l'on croirait silencieuses. Vestiges d'un futur qui se conjugue déjà au passé et qui pourtant émettent, bruissent, parle à qui tend l'oreille. C'est avec ces mots que Fanny et Barthélémy décrivent ces deux tours emblématiques de la porte de Bagnolet, construites dans les années 70 et complètement vides aujourd'hui, en attendant qu'on leur donne une seconde vie. Je les ai interviewées dans le studio son belvillois où travaille Barthélémy. Ben, merci beaucoup de m'accueillir ici pour cette interview dans ton studio, Barthélémy. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Oui, alors moi je suis Fanny Ramouni. Ben, je suis membre du collectif Transmission, au sein duquel je me suis formée à la création sonore, à la radio. C'est une reconversion parce que initialement j'étais urbaniste et je travaille toujours sur les questions urbaines et je fais du son en parallèle.
Et toi, Barthélémy ?
Moi donc je suis... sound designer à la base et on va dire créateur sonore. Je fais parfois de la composition aussi pour l'image, mais j'aime beaucoup aussi les créations sonores et documentaires sonores de création, tout ce qui aussi va avec le field recording, enregistrement de terrain, le bruitage et la réalisation sonore en général.
Et donc il me semble que vous êtes rencontrés au Mercurial justement.
On avait nos bureaux respectifs dans les Mercuriales, puisque à ce moment-là, les tours étaient donc en grande partie vides et il y avait une occupation temporaire qui avait été mise en place par une structure qui s'appelle Plateau Urbain. Et assez spontanément, on a commencé à parler de son et à se poser des questions sur les sons de la tour et avec un peu la curiosité de découvrir les espaces à travers le son.
Alors, on va commencer par écouter donc La Tour Vivante. Et ensuite, on se retrouve pour en discuter.
Thank you.
on les voit sur le périph' déjà. T'as vu comment ils sont gelés? Ça, on les voit qu'en Amérique, ça. Franchement, c'est magnifique.
Ah oh bah, elle ressemble beaucoup au World Trade Center. Hein.
Quand je vous dis ces métaux, c'est par rapport à ça, c'est que c'est là vraiment où j'ai appris le métier. Ça marque un petit peu.
Une petite fourmilière. Plus de 6000 personnes, environ 3000 par tour, plus les visiteurs. Vous verrez les costards cravates du matin qui venaient chercher leur café à la cafétéria, au Starbucks. Bonjour, tu vas bien? Oui. C'était des gens simples, malgré que ce soit du costard cravate. Hein. Vous aviez un centre de conférence, un petit restaurant en fait à l'entrée des tours, qu'on appelait nous le club. Tout était ouvert. Même des gens extérieurs pouvaient couper à travers. Il y avait la queue pour aller au RIE, il y avait la queue pour aller à la cafétéria. Il y avait la joie de vivre en fait dans ces tours.
Pardon, bonjour. On demande un domicile. On peut pas faire plus ça.
Hein?
Ouais, non. J'espère qu'ils seront là. Pour moi, on n'a pas reçu le test. On verra.
Je sais pas hier, je l'ai acheté un peu.
Au revoir.
Le gros locataire qui est parti, c'est MSA, en 2016-2017. Ça a commencé à se dégrader gentiment. Les tours commençaient à se vider petit à petit. Le Covid a accéléré les choses et les gens sont partis. Il y a eu un changement de propriétaire. Et le projet, on est à zéro aujourd'hui. L'ambiance, bah, c'est... Il y a très peu de monde. Donc le peu de personnes qu'on va croiser, bah, c'est un bonjour vite fait. Les gens viennent à contre-cœur. Il n'y a plus de vie au niveau de ces tours. C'est ça qui fait mal, c'est qu'il n'y a plus de vie.
J'ai dû me perdre plusieurs fois. avec le temps, c'est on connaît presque le moindre recoin de la tour, donc c'est une routine. C'est la ronde technique, au fait. Là, on va faire que les locaux techniques. On commence du 30e, on redescend et on prend les escaliers. On prend pas les monts de charge. Donc toute la tour, elle va se faire à pied, au fait, en descendant les escaliers. Bon, c'est plus facile de le faire en descendant qu'en montant.
Ça a l'air pour Zoé. C'est toi qui as coupé le monde charge ouest.
Nous, le soir, à part des fuites d'eau, des gens qui sont bloqués, mais sinon, il n'y a rien.
On essaie de s'occuper du mieux qu'on peut, au fait. Bah, regarder un petit film ou lire un livre. Ou...
Moi, je regarde pas le film. Donc, on parle toute la soirée. On parle. Ah, du tout. Jusqu'à 2h, 3h, 4h de matin, quoi. On fait le tour.
Nous, au niveau de l'équipe de sécurité incendie, on est comme une famille parce qu'on passe beaucoup plus de temps réellement ici au travail qu'avec nos familles. Il y a des nuits quand même où c'est un peu long. Quand on fait 3 nuits comme moi, là, j'avoue que ça pique.
Je suis décalé. Je suis complètement décalé. Je dors pas. J'arrive pas. Parce que dormir sur une chaise ou de s'allonger sur une chaise, c'est pas pareil que le lait. Moi, je connais surtout de site, il dort sur une chaise. Normal. Normal. Mais moi, je me sens bien quand je rentre chez moi. Je prends ma douche, je me déjeuner, je rentre dans le lit. Là, je dors. Même avec une perceuse à côté de moi, j'entends rien. C'est entre 5h et 6h30. J'attends de la relève. Ah, c'est là, ça commence à travailler. Là, on est au 25e étage, tour ouest. On a des trucs, des faux plafonds qui tombent. Pourquoi elle tombe ? Parce que la tour, elle est vide, tout est éteint, chauffage éteint. Donc, à force de rester l'étage comme ça, donc il claque et tombe. C'est un étage fantôme, quoi.
Là, vous avez des petits craquements. Alors la nuit, on se pose la question, qu'est-ce que c'est ?
Pas vraiment des craquements. Il faut vraiment se concentrer pour entendre.
Si on entend le craquement de la tour, on pense qu'il y a quelque chose. Mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Parce que bah, le béton, il vit. Hein. Le béton, tout vit. Hein.
Entre minuit et 4 heures du matin, quand même, ça fait peur. Il y a des moments où on oublie, on est fatigué, donc il y a plein de trucs qui traversent l'esprit. Pour le moment, j'ai rien vu de paranormal. J'essaie de trouver des explications raisonnables à tout, mais bon.
Ils disent à l'époque c'était une grande cimetière ici. Quelle preuve. Même si c'est une cimetière, ça change quoi?
Partout dans le monde, il y a plein de maisons, il y a plein de quartiers qui sont construits sur des cimetières. Hein. Il y a des guerres qui sont passées. Des ans après, il n'y a plus rien, il y a une dalle. Mais c'est pas ça qui nous fait peur. Première chose à faire, je repère un étage où je me sens bien. Parce que ça m'arrive des fois, j'ai des passages dans ma tête, et comme tout le monde quoi. T'as pas envie de parler, t'as pas envie de... C'est juste comme ça. Pendant ma ronde, je fais ma ronde, j'ai envie de me poser quelque part. 5 minutes, 10 minutes. Et je regarde. C'est pas la vue de la mer, mais... Si on arrête de parler, regarde, on n'entend rien.
Ah, moi j'entends un fantôme là.
Ah, c'est possible.
Chaque bâtiment a sa petite histoire, ses petites anomalies, sa petite vie. Tous les bâtiments ont leur petit fantôme.
Ah, de rester ici, c'est... Ah oui, c'est agréable. Je peux rester jusqu'à demain, lever de soleil ici. Ça m'inspire. À chaque fois, je joue des heures et des heures. Je compose des chansons. Je chante. Et je joue aussi, hein, c'est vrai. Hein. Je joue à la guitare. Non, pas la guitare, une mandole, pardon. L'équivalent d'une mandoline. C'est un instrument avec qui on a grandi. Hein. Chino, en Kabylie.
Mais comme le responsable m'a chopé, il m'a vu le matin et sortir avec une guitare, je savais pas qu'il était là. Il m'a dit pas ici. Et c'est vrai, c'est un lieu de travail, c'est pas une tour pour travailler, c'est pas pour jouer à la guitare.
J'ai pas trop de préférence sauf pour la terrasse quand il fait beau. Là, c'est parce que la vue, quand même, elle est magnifique. Et la nuit surtout.
On est tranquille. On ne voit personne. On arrête même de faire des rondes. Non, je rigole.
Ah, c'est plus comme avant. J'ai envie de vous dire, je reconnais plus mes tours. C'est triste.
Eh bien, c'est cette tour qu'on a entendu qu'elle est vendue pour faire un hôtel. Faire un hôtel, il faut déjà aménager tout ce qu'il y a autour en bas là.
Ce serait malheureux de voir les, pour moi en tous les cas, de voir les tours mercuriales fermées parce que je les ai connues au moment où c'était plein de monde, c'était, il y avait de la vie, il y avait plein de trucs.
Franchement, c'est, il y a un changement, je suis pour. Ça y est. C'est toi qui vas dire au revoir à la tour. Moi, je suis là demain et je reviens la semaine prochaine.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez revenir plus en détail sur d'où est venue cette idée de cette création sonore sur cette tour ?
Moi, je pense que déjà, il y avait quand même un sentiment un peu de, d'absurdité à avoir un bureau dans ces tours et du coup à fréquenter ces lieux tous les jours. Les tours mercuriales, elles sont immenses. Il y a 31 étages. L'occupation temporaire, elle était sur 7 étages. Et le reste de la tour dans laquelle on était vide. Et on a découvert assez rapidement que l'autre tour, la jumelle de la nôtre, était pour le coup complètement vide. On était dans cet immense bâtiment, hyper complexe, très impressionnant, qui évoquait quand même une espèce de modernité un peu flamboyante. Et en fait, tout se cassait un peu la figure, quoi. Et littéralement, le bâtiment tombe un peu en morceaux. Et donc moi, déjà, de base, j'avais quand même une espèce de, voilà, de curiosité par rapport à cette situation et l'impression qu'il se passait un truc un peu étrange dans ces tours qui était intéressant à creuser, à documenter, à archiver. Sachant que quand on est arrivé dans les tours, l'idée était qu'on y soit temporairement en attendant un grand projet de transformation urbaine où les tours devaient être transformées en hôtel 5 étoiles, en bureau flambant neuf. On avait un peu du mal à imaginer de là où on était le futur de ces tours. Et du coup, il y avait aussi cette Enfin, pour moi, un peu, cette envie de déjà mieux comprendre dans quoi on mettait les pieds, et comment on en était arrivé là, en fait.
C'était assez fascinant, en fait, d'être dans cette tour énorme.
Le soir, quand on repartait un peu tard et qu'il fallait genre prendre la porte qui passait par le sous-sol.
Ouais. C'était vraiment. En fait, ça, il y avait un côté flippant, un côté fascinant, assez cinématographique. On a exploré des endroits, on s'est dit, en fait, faudrait aller voir par-ci, par-là, essayer d'aller voir plus loin. Et c'est comme ça qu'est venue quand même l'idée d'aller enregistrer tous ces sons. Je sais pas si elle rencontrait les gardiens, est-ce que c'est arrivé tout de suite ?
Il y a eu un peu une rencontre avec un gardien qui était particulièrement sympa et qui nous a un peu introduit au reste de l'équipe.
Donc là, vous parlez de
c'était Zohir, surtout.
Mmh.
Ouais.
Qu'on entend beaucoup dans le...
Oui, c'est limite le personnage principal, quoi.
Ouais. Et du coup, je dirais que c'est aussi grâce à lui que le projet est un peu... c'est lui qui nous a proposé de le suivre dans une ronde. Et il nous a même parlé, en fait, du fait d'enregistrer. Lui, il était un peu fasciné. Il nous disait, mais vous devriez poser un micro pendant toute la nuit pour voir ce qui se passe.
Ouais.
Enfin, pour entendre ce qui se passe.
Oui, il avait compris un peu ce qu'on recherchait. Je viens de me souvenir, mais à la base, on avait pensé mettre de l'image. Il y avait un pote, quelqu'un qu'on avait rencontré dans la tour, Quentin, à qui on avait proposé de filmer. Et en fait, très vite, on nous a dit, ok, vous pouvez me suivre, mais par contre, l'image, ça ne va pas être possible dans tel endroit. Et en fait, de fil en aiguille, on a abandonné l'image, mais on a quand même utilisé les images. Ensuite, pour plus tard, pour la performance, on a utilisé les images de Quentin, les quelques images qu'il avait prises.
Moi, je trouve qu'il y a eu aussi, en fait, assez vite en enregistrant, la découverte que la tour, elle était pleine de sons et qu'il y avait vraiment des sons incroyables à enregistrer. Voilà, les bruits d'ascenseur, les bruits de canalisation, toutes les machineries. Fin... Et voilà, et je pense que du coup, il y a eu aussi un truc qui s'est imposé en allant avec nos micros dans les espaces, de se rendre compte que c'était... Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été une découverte de se rendre compte à quel point ce bâtiment, il était sonore et il était vivant.
Ouais. C'est ça, il y avait tellement de sons qu'en fait ça suffisait. Enfin, c'est pour ça qu'on a continué qu'avec les sons, c'est qu'en fait on s'est dit c'est déjà ouf, quoi.
Le jour où on est rentré dans l'escalier de secours qui du coup traverse toute l'intérieur de la tour, donc qui monte en fait 31 étages. Et qu'on a fermé la porte, et vraiment qu'il y a eu une réverbe, genre que même dans les effets les plus fous, les plus trash de Reaper, tu ne peux pas obtenir. Là, on s'est dit, en fait, il n'y a pas besoin d'image, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, quand vous avez démarré le projet, est-ce qu'il y avait déjà aussi une part de votre propre imaginaire par rapport à cette tour, ou est-ce que c'est les sons qui ont ensuite aussi nourri un imaginaire? Parce que, il y a la fourmilière que vous évoquez. Après, on passe par le labyrinthe. À la fin, ça devient carrément une sorte de monstre. On est à l'intérieur un géant ou un ogre, et qu'on est à l'intérieur du corps de cet ogre. Enfin, moi, c'est ça, les images que j'avais en tête. Plus cette présence de fantômes, éventuellement. Est-ce que vous étiez parti avec des idées de ce que vous projetiez déjà sur cette tour? Ou est-ce que c'est les sons aussi, après, qui ont nourri tout ça?
Je pense que tout l'imaginaire des fantômes, par exemple, il est venu au fur et à mesure, parce qu'on sentait que... Il y avait un côté un peu effrayant de se balader dans ces trucs tout vides. Et surtout les sons, en fait, certains sons qu'on a réussi à capter qui étaient assez étranges. Et on se demandait un peu ce que ça pouvait représenter. Et il y avait un côté très fantomatique. Et puis les fameux craquements dont parlent les gardiens, qui sont en fait comme le hum, quoi, le son mystérieux. On ne sait pas d'où ça vient, ce que c'est. Et on a essayé un peu de les représenter par des sons qui n'existent pas. Enfin, voilà.
Personnellement, c'est des tours que je connaissais déjà avant d'y travailler, parce que j'ai grandi dans la banlieue parisienne et qu'on les voit depuis le périph', elles sont hyper emblématiques. Et puis il y a ce truc de, quand t'es dans une tour, surtout quand elle fait 30 étages, tout le monde te parle de la vue. Du coup, il y a énormément de représentations visuelles des tours et de ce qu'on voit depuis les tours, mais par contre, moi, j'avais pas trop de représentations sonores, voire même, je me disais, justement, un bâtiment, c'est un peu inerte, donc ça fait pas de bruit. Et du coup, je dirais qu'il y a eu un peu une étape de justement se défaire de l'image, ce qui s'est aussi passé dans le projet, hein, de se défaire de cette représentation très visuelle et de plonger plutôt dans l'intérieur ou sous la peau de la tour. C'est des questions qu'on s'est posées à un moment, notamment sur le choix des images ensuite qu'on a utilisées dans les performances. Est-ce qu'on montrait un peu cette vision archétypale de la tour qui est érigée au milieu du ciel? Ou est-ce qu'on essayait justement de proposer des perceptions un peu brouillées qui rendent compte aussi de ce que nous a amené le son?
Donc cette pièce sonore, vous avez pu en faire une performance. Comment ça s'est passé? Ça consistait en quoi?
En fait, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire en live et essayer de voir si on peut rendre ce documentaire vivant. On avait imaginé pas mal de choses, que ce soit juste une installation sonore que le public puisse déclencher, un peu comme cette espèce de panneau de contrôle géant qu'on avait vu dans la salle des gardiens, qui ressemblait à une sorte de machine géante avec plein de boutons.
L'idée, c'est qu'on s'était bâti une sorte de trame, de partition un peu, avec des séquences qui étaient bien définies, qui avaient une durée. Et par contre, à l'intérieur de ces séquences, on était relativement libre de déclencher les sons. Bart était plutôt sur la partie ambiance sonore, bruitage. T'avais une espèce de palette de plein de petits sons récupérés dans notre montage qui pouvaient être du coup déclenchés comme de la musique, quoi, live. Et moi, j'avais des samples de voix. Donc en fait, toutes nos interviews qu'on avait vraiment découpées assez finement. Et l'idée, c'était de voir aussi comment, à travers le live, le montage pouvait évoluer, être à chaque fois un peu différent, parce que finalement, on n'était pas tellement sur un principe... Alors, il y a une narration, mais cette narration, elle est pas complètement linéaire. En fait, on déambule à l'intérieur de la tour et on traverse différents espaces, mais il n'y avait pas d'obligation à ce que, à l'intérieur des séquences, un son vienne avant un autre. Et du coup, ça nous laissait une certaine liberté d'improvisation.
Oui, c'est ça.
Et visuellement, ça donnait quoi exactement, cette performance?
Quand on a fait la performance au sample, on s'est dit que ça pouvait être intéressant qu'on ne soit pas le centre de l'attention. Très vite, on s'est orienté vers une structure en forme de tour et sur lequel il y aurait des visuels qui ne soient pas trop réalistes. Et du coup, on a proposé à un artiste visuel, Jonas Lebri, de reprendre les images qu'avait tournées Quentin à l'époque. Et lui, il utilise le glitch art, donc c'est une sorte de déformation informatique qui déforme les visuels. Et il projetait sur cette structure par étage, avec ces visuels qui représentaient un peu, on comprenait que c'était la tour sans trop comprendre. Et les gens, on a eu des bons retours en fait de gens qui nous ont dit qu'ils avaient réussi à un peu se représenter la chose sans que ça soit un ciné-concert, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas une image très définie.
Je pense que la création sonore qu'on proposait, elle est relativement exigeante à écouter, au sens où il faut être dans des bonnes conditions, avoir une qualité de son aussi qui permette quand même de faire ressortir tout le travail qu'on a fait. Et du coup, là, ça permettait aux gens d'avoir accès à ça, et peut-être avec du coup cette forme performée, visuelle, qui aussi facilitait le fait de se plonger dans les sons, parce que c'est quelque chose auquel malheureusement on n'est pas complètement habitué. Et j'espère que ce genre de forme, qu'il va y en avoir de plus en plus.
Et vous avez eu des retours de vos trois personnages? Ils se sont écoutés?
Il y en a un qui était présent, Zohir.
Ouais, qui est venu à la performance qu'on a faite, qui était donc juste à côté des tours mercuriales. Et ça nous a fait trop plaisir, parce que moi, je dirais quand même, pour avoir fait d'autres projets de documentaires ou de création sonore, c'est souvent très difficile de faire comprendre aux gens ce qu'on veut faire. Du coup, là, le fait de... Je trouve non seulement de pouvoir lui faire écouter, mais en plus, dans une version un peu performée, où nous, on se mettait aussi un peu en jeu, c'était moi, j'ai trouvé que c'était une super manière de lui rendre aussi le temps et l'attention qu'il nous avait consacré.
Vous travaillez sur toute la musicalité des sonorités que vous avez trouvées. Est-ce que vous pouvez expliquer quel type de micro vous avez employé, comment vous avez réfléchi au dispositif vraiment technique pour la captation de ces sons? Et est-ce qu'il n'y a que des sons captés dans les tours, ou est-ce qu'il a fallu quand même aller chercher des sons à l'extérieur pour créer ça?
Je dirais que 90%, 95% des sons sont des sons qu'on a captés dans les tours. Quand on entend justement les ambiances, le côté un peu vivant du début, c'est vraiment des gens qui passent dans les portillons. Il y a des sons qu'on a ajoutés qui sont la foule, par exemple, les sons qui sont irréels, du passé choses comme ça. Mais sinon, après, tout le reste, même les côtés, les notes, un peu, tout ce qui est un peu musical, c'est des sons de la tour qui sont retravaillés et qui sonnent, soit par eux-mêmes, soit qui sont un peu avec des effets, tout ça.
C'était un peu un des points de départ qu'on voulait se donner, d'utiliser au maximum les sons du lieu. Et même après, dans le montage, je me souviens de moments où tu avais testé un peu des effets. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait déjà des sons qui, en soi, étaient assez incroyables et assez musicaux, et qu'il n'y avait pas forcément besoin de les tripatouiller énormément pour en faire quelque chose.
C'est ça.
Après, peut-être tu peux parler des micros, parce que c'est vrai que...
Ouais. Alors, en termes techniques, c'était soit essayer d'enregistrer des choses très larges, enfin des ambiances. Dans ce cas-là, c'est deux micros AB, un dispositif AB ou en ORTF, soit sur un pied, soit à la main, comme ça, qui permettent d'avoir vraiment une sensation d'espace. Et quand on écoute au casque ou dans des enceintes, on sent que voilà, ça résonne. Et... Ensuite, il y a des micro-contacts qui permettent de capter les vibrations des sons. Donc, par exemple, on a un micro, le géophone, c'est un micro-contact qui est normalement utilisé en sismologie. Et là, par exemple, on l'a utilisé dans les ascenseurs. Donc, on entend le côté métallique de l'ascenseur qui vibre. Ah oui, aussi, on avait des capteurs électromagnétiques pour capter les ondes. Il y a une grande antenne radio sur le toit. Et on avait réussi à capter la radio. Oui, voilà.
C'était incroyable. En fait, on a fait une session d'enregistrement sur le toit. Bon, je ne sais pas si on devrait le dire. Parce que c'était évidemment assez compliqué d'avoir accès à ce toit. Et littéralement, en fait, on pouvait... capter les fréquences radio en se déplaçant physiquement sur le toit, quoi.
Ouais.
Et du coup, moi, je crois qu'il y avait un truc assez incroyable d'être dans la fréquence radio.
Ouais, ouais. Et puis, il y a ce passage aussi où, en fait, on entend surtout que les sons des machines, c'était le fait d'essayer de rendre encore plus musical la musicalité de la tour. On pensait à toutes ces machines qui font des rythmiques. Donc, c'était essayer de rendre une énorme machine locomotive avec tous les tuyaux, tout ça, qui résonne.
Et est-ce que vous êtes passé par une forme d'écriture avec une structure et un sorte de récit ?
On s'était posé la question justement au début, est-ce que c'est les voix et les entretiens qui devaient guider la narration ? Et en fait, on a plutôt eu envie d'avoir une narration sonore et finalement qui est guidée par les différents espaces de la tour qu'on traverse. Et donc en fait, notre montage, il est découpé entre le moment où on rentre dans la tour... Bon, alors il y a effectivement, c'est un mélange entre les espaces et les thématiques, puisqu'il y a un moment où on revient un peu dans le passé glorieux de la tour. Ensuite, on monte dans les étages qui sont vides. On passe par cette salle des machines où il y a énormément de bruit. Et bon, j'ai plus toutes les étapes en tête, mais à la fin, on arrive vraiment tout en haut de la tour et on débouche sur la terrasse et justement à l'air libre, ce qui est un peu la fin de cette déambulation. Mais du coup, ouais, je dirais qu'on a essayé de justement avoir une forme de narration qui était peut-être un peu différente de celle dont moi j'avais l'habitude, et en tout cas qui essaye de se laisser vraiment guider par les sons aussi.
Moi, je suis fan de Hildegard Westerkamp, qui est une créatrice sonore, des années 60-70, et elle a fait une pièce qui s'appelle Les Ports de la Perception, où en fait elle passe d'un lieu à un autre, et à chaque fois c'est des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Mais parfois il y a des mélanges entre deux mondes. Voilà, c'est un peu peut-être une petite inspi quoi dans tout ça.
Est-ce qu'il y a des nouveaux projets sonores en cours chez l'une, chez l'autre, ensemble ?
Moi en ce moment j'ai recommencé à travailler plutôt dans le domaine, on va dire, de l'histoire urbaine, mais j'y injecte aussi la radio, plutôt comme outil de médiation. Donc en ce moment, je travaille avec des jeunes d'un quartier d'Aubervilliers sur une balade sonore de leur quartier. Et c'est assez passionnant parce que voilà, on n'a pas du tout la même perception de l'espace quand on est ado, qu'on a 16-17 ans et qu'on cherche tous les recoins où se poser avec ses potes. Et du coup, une vision très spécifique de l'espace public qu'ils me transmettent dans ce projet. Et je m'amuse beaucoup.
Moi, j'ai un projet qui me touche beaucoup en ce moment. C'est de travailler avec une troupe de danse et de composer la musique de leur performance de danse. Et il y a tout un travail avec aussi les sons du corps. Les danseurs ont en fait des capteurs sur eux. on utilise le son des mouvements pour aussi générer des sons. C'est un projet que j'ai envie de faire au mieux.
Ben merci beaucoup. Et avant de finir l'émission, j'ai pensé qu'on pourrait écouter une création à laquelle tu as participé, Barthélémy, lors d'un workshop de Félix Blum avec Phonurgia Nova, qui s'appelle Tintinnabuli. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu avant de lancer le son ?
Avec plaisir. Donc c'était un workshop d'une semaine, donc encadré par Félix Blum. C'était en fait la découverte du field recording, de la technique à la création sonore. Et bah, ça a été passionnant. Félix, qui est très généreux dans sa façon de partager ce qu'il connaît. Donc on a passé une semaine, c'était à Arles. Du coup, Félix nous avait dit, voilà, on va faire une pièce collective. Il y a eu une proposition, je crois, de Marc de Phonurgia des cloches. Et donc, en fait, ça s'est créé un peu par groupe. Chacun a décidé d'aller chercher des cloches. Donc, il y en a qui sont allés voir un sonnailleur, d'autres. Moi, ma mission, c'était d'essayer d'enregistrer les cloches du clocher qui étaient inaccessibles, machin. Donc, il y a toute une mission. Il y avait les sonnettes de vélo. Il y avait des bols tibétains aussi qu'on avait fait résonner dans la mairie de Arles. Enfin, c'était complètement parti en riz, quoi. Mais c'était super. À la fin, on a fait cette pièce collective qu'on a appelée Tintinnabuli, qui veut dire cloche en latin, je crois, sonaille ou chose comme ça. Et c'était un magnifique workshop.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi.
Merci Claire.
Du
passement de manger.
Donc vous voulez aller à côté des cloches ?
Pour pouvoir enregistrer les cloches.
Pour un vrai coup de cloche.
Vous voulez une ouverture de locaux ?
Donc il faudrait les faire sonner rien que pour vous.
Oui, voyez avec le service du patrimoine.
D'accord.
Vous voulez monter ici ?
Enregistrer les cloches de toutes les paroisses.
Thank you. Appel en cours.
Mais moi, je préfère l'autre parce qu'elle teinte bien, et celle-là, elle est plus douce, elle est plus feutrée.
Normalement, la renvoie hein, pour éviter que le son ne s'assourdisse ainsi. Hein, voilà, je vous la refais encore une fois quand même, par vis.
لك عاود ذات مبارك الله فلان ايه سيادي صلى الله عليه الله بارك ايه بارك وبارك يا الله فلان اقنا وصلنا بنا وسديه نور عربي وسديه نور المصطفى وسديه ربي لعفو سودان صوي مكان مدينة سوداني قانقا صوي صلنا بنا ربي لعفو سودان صوي صلنا بنا ربي لعفو سودان صوي صلنا بنا كلك يا هادي الله ومامي تذكر بالله كلك يا هادي الله ومامي
Nous venons d'écouter Tintinabouli, une création sonore collective de Anne Barthélémy, Barthélémy Bellody, Christine Dancos, Charlotte Panchenier, Olivier Pichard, Aude Rabillon, Grégoire Terrier et Adrien Vinet. Elle a été réalisée à Arles en 2021 dans le cadre d'un workshop Phonurgia Nova avec Félix Blum. C'était Récréation sonore avec Barthélémy Bellody et Fanny Ramouni pour leur création La Tour Vivante. Vous pouvez réécouter l'émission mardi à midi sur Radio Campus Paris en DAB+ et la retrouver à partir de mercredi sur notre site www.radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez Jérôme Massella. D'ici là, portez-vous bien.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Ну вот, как бы, знали,